Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. L'opposition social-démocrate turque remporte la mairie d'Istanbul avec près de 800 000 voix de plus que le candidat au pouvoir. Elle veut aujourd'hui porter un espoir de démocratie. Avec son parti, l'AKP, le président Erdogan subit lui sa plus lourde défaite depuis 17 ans. Nous irons à Istanbul dans un instant.
Et puis on se penchera ensuite sur le sommet des deux rives. Il est organisé à Marseille par Emmanuel Macron. Il souhaite voir 10 pays de bord de Méditerranée coopérer sur des questions sociales et culturelles.
Rien en revanche lors de cette réunion sur les questions migratoires. Dans cette édition, nous reviendrons sur le naufrage d'une embarcation en Méditerranée en 2013. 268 migrants étaient morts. Le procès d'officiers italiens débute aujourd'hui.
La SNCF met en place aujourd'hui un atelier destiné à accompagner ses agents dans la transformation de l'entreprise. Pas sûr que cela apaise le climat social, vous le comprendrez.
Et puis après cette édition, dans son billet politique, Frédéric Saïs se demandera si l'exécutif a oublié les leçons du mouvement des gilets jaunes. C'est au son de la musique, des pétards et des klaxons qu'une majorité de Stambouliotes a festé hier soir la victoire de l'opposant au pouvoir turc, Ekrem İmamoğlu. Avec 54% des voix, il a fait bien mieux que lors du précédent scrutin en mars dernier qui avait été annulé, je vous le rappelle, par les autorités turques sous la pression de l'AKP, le parti au pouvoir. Recep Tayyip Erdogan, président turc, est donc défait à Istanbul, au plus bas depuis 17 ans. Et son adversaire İmamoğlu a voulu hier y voir un espoir. İmamoğlu.
C'est un nouveau départ. Sur cette nouvelle page que nous ouvrons, il y aura désormais de la justice, de l'égalité, de la fraternité, de la bienveillance. Ce sera la fin du gaspillage, des paillettes, du mépris et de la stigmatisation. Aujourd'hui, 16 millions de Stambouliotes ont réaffirmé leur croyance en la justice et leur foi en la démocratie.
Bonjour Éric Bigala.
Bonjour Clara.
La démocratie, justement, le pouvoir du candidat a concédé. Le candidat du pouvoir hier a concédé hier, Éric, que le peuple avait parlé. Il a cette fois reconnu sa défaite.
Oui, c'est pour ainsi dire une première en la matière. 2h30 après la clôture des bureaux de vote et le début du dépouillement hier, le candidat du pouvoir, Binali Yildirim, a reconnu sa défaite et félicité le vainqueur. On est assez loin des chicaneries et des contestations du premier scrutin fin mars. Ekrem İmamoğlu avait à l'époque déjà remporté la mise, mais avec une avance très serrée, 13 000 voix à peine, d'où les contestations et même l'annulation de ce scrutin. Ce dimanche, en revanche, la victoire est nette et sans bavure, environ 750 000 voix d'avance pour İmamoğlu. Quelques dizaines de minutes après le candidat officiel du parti présidentiel, c'était le président lui-même, Recep Tayyip Erdogan, qui reconnaissait la victoire de son opposant et même qu'il félicitait dans un tweet. Erdogan n'est pas allé plus loin. Il est vrai que pour lui, pour son parti, cette victoire d'İmamoğlu est le plus gros revers électoral qu'il ait jamais connu.
Alors Éric, Ekrem İmamoğlu peut-il devenir le premier opposant à Recep Tayyip Erdogan en Turquie aujourd'hui ?
Alors il en a la possibilité. Istanbul, qu'il vient de remporter, c'est la capitale économique, politique et intellectuelle du pays. Ekrem İmamoğlu est maintenant à la tête d'un véritable petit pays, 5 milliards d'euros de budget, 80 000 employés et fonctionnaires, une bonne vingtaine d'entreprises, publiques ou privées, mi-publiques, mi-privées, qui gèrent le transport urbain, y compris maritime, les parkings municipaux, un parc immobilier important. Recep Tayyip Erdogan le disait lui-même à ses cadres, « Si on perd Istanbul, on perd la Turquie ». Perdre Istanbul, c'est maintenant chose faite, mais İmamoğlu a pourtant annoncé dans son discours de victoire d'hier qu'il était prêt à travailler avec le gouvernement d'Erdogan et non pas contre lui. Manifestement, il sait très bien que le président Erdogan et son administration peuvent, sinon paralyser son action, au moins lui compliquer très sérieusement la vie municipale.
Merci beaucoup Éric Bigala depuis Istanbul pour France Culture. Vous êtes accompagné de Marc Garvenès pour les moyens techniques. Une manifestation gigantesque en République tchèque. 250 000 personnes se sont réunies hier à Prague pour réclamer la démission du Premier ministre Andrej Babiš. Il est soupçonné de fraude aux subventions européennes pour son enrichissement personnel. Le pays n'avait pas connu une telle mobilisation depuis la révolution de velours qui a fait tomber le communisme en 1989. La réunion était initialement prévue entre les chefs d'État, elle se fera finalement entre ministres. À Marseille se tient aujourd'hui le sommet des deux rives sur proposition d'Emmanuel Macron. 10 pays y sont représentés, 5 du sud de l'Europe et 5 d'Afrique du Nord. C'est moins que ce qui avait pu se faire auparavant, Anne Fauquemberg.
Si l'Union pour la Méditerranée, créée à l'initiative du président Sarkozy, existe toujours avec un secrétariat à Barcelone, la structure s'apparente quasiment à une coquille vide. Elle a montré ses limites avec ses 43 membres et son incapacité à agir à l'occasion des printemps arabes. Emmanuel Macron préfère donc rester dans un système à 5+5 né dans les années 90. Le dialogue aura donc lieu pour la rive sud avec la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Pour la rive nord, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, Malte et donc la France. Hier soir, ce sont les ministres des Affaires étrangères de ces pays qui se sont retrouvés à Marseille, même ceux de l'Algérie et de la Libye, précise-t-on à l'Élysée. Et ce matin, les sociétés civiles de ces 10 États viendront présenter un agenda positif pour lancer une dynamique de coopération en Méditerranée.
Et de quelle coopération s'agit-il, Anne ?
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu 5 forums préparatoires à cette réunion de Marseille sur les énergies, l'environnement, l'économie, la jeunesse ou encore la culture. Des forums qui ont eu lieu dans 5 pays différents et qui ont réuni environ 200 participants issus des secteurs associatifs, de la recherche ou encore de l'entreprise. Ces rencontres, elles ont permis de faire émerger 200 propositions et ce sont les meilleures idées qui seront présentées ce matin au président Macron. Il est question d'un réseau d'entreprises d'insertion pour les jeunes ou encore d'un projet d'investissement pour développer les nouvelles technologies dans les médinas maghrébines, des projets coordonnés par la prix Nobel de la paix 2015, la tunisienne Widad Bouchamaoui. Une initiative qui n'est toutefois pas dénuée de critiques. Jean-Paul Chagnolo, par exemple, avec son institut de recherche, l'IREMO, il a participé au forum sur la culture à Montpellier. Il relève une absence de ligne directrice. Le point faible de cette logique projet, explique-t-il, c'est la disparition d'une pensée sur la Méditerranée, avec en toile de fond, sur le plan diplomatique, les de la France et de l'Union européenne dans les grands conflits du temps.
Anne Fauquemberg, envoyée à Marseille pour France Culture à l'occasion de ce sommet des deux rives. Vous pouvez aussi retrouver son article sur notre site franceculture.fr, article sur la Méditerranée intime et historique des présidents français. Alors, nous l'avons compris, ce sommet des deux rives se veut positif. Il ne sera donc pas question des migrations d'un bout à l'autre de la Méditerranée, sujet pourtant commun et central pour les pays représentés. Voilà l'une des autres critiques face à ce sommet. Et comme un écho à cette question des migrations, un procès s'ouvre aujourd'hui en Italie, celui d'officiers italiens poursuivis pour un naufrage d'une ampleur terrifiante. C'était en octobre 2013, une embarcation coulait au large de l'île de Lampedusa avec des familles syriennes à bord. Il y a eu 268 morts, dont une soixantaine d'enfants, Mathilde Imberti.
Le navire de la marine italienne qui peut intervenir ce jour-là ne bouge pas. D'après la reconstitution réalisée par l'hebdomadaire italien L'Espresso, il reste 5 heures sans recevoir d'ordre du centre de commandement à Rome. Pourtant, les autorités maltaises insistent au téléphone. Le patrouilleur tricolore est le plus proche de l'embarcation en détresse. En réponse, les Italiens renvoient eux vers Malte, tandis que les migrants, voyant l'eau monter, lancent des appels désespérés. On est en train de couler, faites quelque chose, on va mourir. Cette voix est celle de Mohamed Jamo, un médecin syrien qui fuyait la guerre avec sa famille et a vu deux de ses enfants se noyer. Il souhaite se porter partie civile aujourd'hui dans le procès. Après ce naufrage qui remonte à 2013, l'opération Mare Nostrum a été mise en place et les gardes-côtes italiens sauveront des centaines de milliers de personnes en se sentant bien seul dans cette entreprise.
Mathilde Imberti depuis Rome pour France Culture, alors que depuis 11 jours maintenant, 42 migrants sont bloqués au large des eaux territoriales italiennes sur un navire humanitaire néerlandais. Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, accuse les Pays-Bas et l'Union européenne de s'en désintéresser. Est-ce un simple bateau de pêche ou un bâton espion ? Le débat enfle en Corée du Sud après l'arrivée de 4 personnes venues de Corée du Nord. Elles ont réussi, sans être détectées, à franchir la frontière maritime. Conservateurs et analystes à Séoul accusent la politique de détente du président sud-coréen de provoquer en ce moment un relâchement de la surveillance dans l'armée. La péninsule coréenne encore et cette cartographie réalisée par une ONG sud-coréenne. Cartographie horrifiante. Elle comptabilise des centaines de sites d'exécution et des sites secrets d'inhumation des corps en Corée du Nord. Ce travail d'enquête monumentale vise à faciliter le travail des juges en vue d'une éventuelle transition démocratique. Les explications avec le correspondant de RFI à Séoul pour France Culture, Frédéric Ojardias.
318 sites d'exécution publique et 25 sites d'inhumation des corps ont été identifiés en Corée du Nord par l'ONG Groupe de Travail sur la Justice de Transition. Celle-ci a interviewé 610 réfugiés nord-coréens. Ces exécutions sont en général par arme à feu. Des centaines de personnes sont parfois obligées d'y assister, parmi elles des enfants, comme Oh Seryok, un transfuge qui a contribué à la collecte de ces données.
Quand je vivais au Nord, j'ai assisté à ma première exécution publique quand j'avais 8 ans.
Était-ce obligatoire d'y aller ?
Dans mon cas, non. J'étais juste curieux. Je voulais voir à quoi cela ressemblait. Mais parmi les réfugiés que nous avons interviewés, certains ont dit que la chef de leur district allait de maison en maison pour obliger les gens à y assister. Dans les écoles, des classes sont emmenées par leurs professeurs voir les exécutions. Dans les provinces frontalières de la Chine, beaucoup de Nord-Coréens traversent illégalement la frontière. Et les autorités exécutent les gens dans les écoles, dans les stades, pour leur envoyer un avertissement et leur dire de ne pas le faire.
They execute people on the school ground or stadium to give that message.
Ce groupe de travail sur la justice de transition espère que son rapport permettra un jour de poursuivre en justice les responsables, même si ce jour semble très lointain. L'association veut aussi aider les familles des victimes à retrouver dans le futur les corps de leurs proches afin de faciliter leur travail de deuil. Cette cartographie des exécutions est ainsi une façon de préparer une hypothétique transition démocratique en Corée du Nord.
Une transition qui est pour le moment utopiste. Les discussions par exemple entre Pyongyang et Washington stagnent. Notons que Donald Trump sera à Séoul le week-end prochain après le G20 organisé en Chine. Donald Trump qui semble jouer l'apaisement, il assure qu'il ne voulait pas d'une confrontation armée avec Téhéran. « Je ne cherche pas la guerre », assurait hier soir le président américain dans une interview, alors qu'aujourd'hui doivent entrer en vigueur de nouvelles sanctions américaines contre Téhéran.
8h12 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq. La SNCF met en place aujourd'hui un observatoire de la transformation sociale.
Oui, c'est une nouvelle instance censée être neutre et indépendante, selon la direction de la SNCF. Elle travaillera à la mise en place de la réforme ferroviaire pour s'assurer d'un bon climat social dans l'entreprise, ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais déjà, les critiques se multiplient, notamment sur la structure de l'instance, Noémie Philippot.
Cet observatoire est composé de 4 personnes, toutes extérieures à l'entreprise, même si 2 d'entre elles connaissent très bien la maison. Bénédicte Tillois, ex-directrice générale de Transilien, et Olivier Marambeau, qui était à la tête de Fret SNCF. La création de cette instance est prévue dans le texte de la réforme. Problème pour le secrétaire fédéral de Sudrail, Bruno Poncet, les syndicats n'en font pas partie.
On aurait pu espérer, si nous on avait été les partenaires sociaux, on aurait pu accompagner cet observatoire, sauf qu'aujourd'hui on voit bien que c'est 4 personnes extérieures qui ne pourront jamais mesurer à quel point aujourd'hui la situation est dangereuse et grave à la SNCF.
Selon lui, 50 cheminots se suicident tous les ans, en partie à cause des conditions de travail. Difficile pour Bruno Poncet de ne pas faire le rapprochement avec France Télécom et la vague de suicides en 2008 et 2009 liée à la brutalité du management.
On est vraiment sur le début d'une situation qui va rappeler France Télécom par la façon de faire. Depuis le début de l'année, là, on est environ à 1 suicide par semaine, donc c'est quand même monstrueux. Donc nous, on espère bien que l'entreprise va se saisir du problème à fond et puis va surtout arrêter ses réformes. C'est pas un observatoire de 4 personnalités extérieures qui vont peut-être se réunir une fois par mois ou tous les 6 mois qui va changer quelque chose. Il va surtout apporter des réponses aux cheminots qui aujourd'hui se demandent où va leur entreprise et surtout qu'est-ce qu'ils vont devenir.
La SNCF assure que des dispositifs de prévention et d'assistance existent depuis plusieurs années. Sur le nombre de suicides liés au travail, elle s'en remet à la caisse de prévoyance et de retraite des cheminots. Depuis 2013, 8 cas ont été identifiés, aucun en 2018.
Emmaüs fête cette année ses 70 ans et a retrouvé hier son grand salon Porte de Versailles à Paris. 20 000 visiteurs y étaient. Preuve que l'association fondée par l'abbé Pierre sert et convainc toujours. Retour ce matin sur ses 7 décennies d'existence à la braderie Emmaüs hier avec Bastien Roch.
À l'entrée du salon, les visiteurs sont accueillis par une énorme frise qui retrace les 70 ans d'histoire d'Emmaüs. Ancien président d'Emmaüs Europe, Julio de la Granja a passé 40 ans au sein de l'association. De quoi l'avoir évolué en même temps que la société européenne.
Il y a 40 ans, il y avait beaucoup de détresse au niveau des citoyens des pays, que ce soit des Belges ou des Français ou Italiens ou Espagnols. Aujourd'hui, un peu moins de ces côtés-là, même si c'est toujours. Et il y a beaucoup plus aujourd'hui, les couches les plus défavorisées en Europe de l'Ouest, c'est vraiment les personnes sans papier. C'est là que Emmaüs a un rôle à jouer.
Mais il n'y a pas que les besoins qui changent, les façons de s'engager aussi, comme l'a remarqué Valérie Fayard, déléguée générale adjointe d'Emmaüs France.
On a le sentiment que les jeunes sont capables de s'engager très fortement, mais sur des actions plus ponctuelles, soit être en mode projet, c'est-à-dire s'engager sur un projet, et ils vont le faire à fond, mais sur une durée limitée, soit être dans des modes d'intervention et des modes d'engagement qui sont plutôt ceux de la désobéissance civile.
Pascal, lui, n'est à Emmaüs que depuis 8 ans, mais perçoit déjà des changements, avec par exemple plus de coopération entre les acteurs sociaux.
On essaye de travailler de plus en plus avec d'autres associations comme le Secours Populaire, etc., de façon à ce que chacun mutualise ses moyens et ses compétences pour pouvoir aider au plus à même les gens qui sont dans le besoin, quoi. Ne pas travailler tout seul.
Mais les bénévoles s'accordent à dire que l'esprit d'Emmaüs est le même qu'il y a 70 ans, tandis que les besoins de solidarité sont toujours plus importants.
C'était un reportage de Bastien Roch pour France Culture. Les fortes chaleurs arrivent sur l'Hexagone ce lundi pour une semaine caniculaire, excepté en Bretagne. Paris et la Seine-et-Marne sont déjà placés en vigilance orange pour canicule. Les températures passeront la barre des 30 degrés à la mi-journée tout à l'heure de la Lorraine jusqu'au sud de l'Aquitaine en passant par la région Rhône-Alpes et l'Île-de-France. Elles atteindront 40 degrés le long de la Loire entre jeudi et vendredi. Côté ciel ce lundi, la pluie va tomber sur la Bretagne et sur une partie de la Normandie. Partout ailleurs, Météo France prévoit de larges éclaircies.
Merci Clara Lecoq-Réal.